Bonjour Ludo.
Bonjour Jacqueline, salut à tous.
Te voilà de retour pour une nouvelle saison de À Travers Champs, plein de bonne humeur, de sourires et d'infos sur notre territoire rural. Et tu nous parleras forcément de ce qui te passionne, comme d'habitude, l'agriculture et son rôle dans notre territoire et notre société. D'abord, est-ce que ça va Ludo? Tu as passé de bonnes vacances?
Très bien, les vacances ont été avec pas mal de boulot.
Sous un soleil torride en plus, hein?
Voilà, torride, mais ça nous, on revient bronzé, en forme et plein d'énergie. Pas mal de choses à dire cette année, hein, l'agriculture va se retrouver au carrefour de pas mal d'enjeux. On suivra l'évolution de nos campagnes, de notre nature et de ses acteurs au fil du temps et de l'eau.
Si elle arrive un jour.
Oui, elle arrivera, hein, faut y croire. Et on s'en plaindra peut-être même rapidement en plus. Hein.
Comme d'habitude.
Comme d'habitude, les agriculteurs sont jamais contents, comme on dit.
Donc... et nous non plus. Hein.
Voilà, tout le monde. Donc ça restera à travers le temps.
Un été 2022 particulièrement spécial tout de même. Canicule, sécheresse, restrictions en eau, les incendies particuliers, tout cela.
Et des records de fréquentation touristique. Hein. Ouais. Tout n'est pas négatif quand même. Donc cet été, hein, c'est vrai que nous sommes arrivés avec un déficit d'eau en fait dû à l'hiver sec hein, précédent. Donc les fortes températures ont accentué la sécheresse des sols sans évaporation possible. Donc plus de refroidissement de l'atmosphère. Donc ça aggrave tout en fait. Et la sécheresse historique, donc avec une absence de pluviométrie. Mais cet été, hein, qu'on le voit comme un bouleversement, n'est en fait, à l'échelle de notre territoire, rural en particulier, qu'un marqueur d'un changement déjà bien ancré à l'échelle terrestre, le réchauffement climatique, le fameux. Donc les températures moyennes, pour preuve, entre 2011 et 2020, sont celles de l'été 1976, l'été historique. L'hiver dernier, cela faisait le deuxième hiver de suite, hein, que nous manquions d'eau et de pluviométrie. Donc les nappes phréatiques n'étaient pas chargées à normal, et ni nos réserves stratégiques d'eau potable, comme le lac du Sébron.
On voit donc arriver aussi le conflit autour des usages de l'eau, forcément. Oui. En mai dernier, dans cette même chronique, tu nous parlais déjà de sécheresse avant le premier épisode de canicule, le 18 juin.
Oui, et rappelez-vous, hein, il faut distinguer sécheresse agricole et sécheresse hydrologique.
Tu nous l'avais bien expliqué.
Ouais, donc les premières, pour un petit rappel, c'est les premières pluies régleront en fait seulement le souci de la sécheresse agricole. Pour les nappes, il faudra un hiver extrêmement pluvieux.
Un automne même, lui.
Et un automne le plus tôt possible, en fait, très clairement, ouais. Avec une bonne répartition des pluies, puisque aujourd'hui c'est comme ce qui compte, hein, en quantité et en intensité, hein, pour que cela profite aux nappes, hein, sans inondation. Donc voilà, avec le Pakistan, aujourd'hui, on peut voir les dégâts.
Les conséquences, oui.
Donc retenez en fait que la terre, c'est un sol en bonne santé, il doit être comme une éponge. Donc il faudra l'humidifier doucement au début, sinon l'eau va couler en fait dessus sans s'infiltrer.
Tu nous souhaites donc un automne et un hiver pluvieux.
Oui, voilà, exactement, beaucoup de pluie. Même si à court terme, hein, cela posera peut-être des soucis pour la bonne santé des semis d'automne qui auront lieu ensuite. Mais sur le long terme, la pluie en quantité, cet hiver...
Chaque chose en son temps, Ludo.
Nécessaire, oui. Mais c'est vrai qu'on est toujours en train de repenser à ce qui va arriver. Et en Deux-Sèvres, hein, ce qu'il faut quand même savoir, nous l'avions déjà dit, mais nous avons des nappes superficielles, donc avec peu d'inertie en fait. Donc c'est un handicap pour la sécheresse hein, qui est arrivé très très vite, mais cela peut nous aider à l'inverse cet hiver, avec des nappes qui réagissent donc vite à la pluviométrie.
C'est le cas du Sébron, justement.
C'est le cas du Sébron, notamment, oui.
On vous passera de la bonne musique hein, pour vous réconforter.
Voilà, et Alban hein, nous fera des chroniques pour garder le moral, partant pluvieux.
Salut Alban. Sans avoir eu de feux de forêt en Deux-Sèvres, nos terres agricoles ont brûlé, elles aussi. Quelles conséquences aujourd'hui pour nos agriculteurs?
Pour nos agriculteurs et puis pour nous tous aussi, hein, le premier impact est visuel. Donc lorsque vous traversez une zone sinistrée, en fait, hein, c'est vrai que c'est un paysage désolant. Donc sur les grands feux, hein, comme celui de Beaulieu sous Bressuire, qui a détruit quelques granges, des champs, les haies et des arbres centenaires, cela nous rappelle aussi la beauté de notre bocage en temps normal.
Et voilà.
Donc le deuxième impact, si je puis dire, ce sera la filière bois, hein, qui s'organise déjà en fait pour valoriser les arbres brûlés. Donc ouais. Souvent le cœur du tronc en fait reste valorisable, par exemple, pour notamment faire des pellets qui aujourd'hui est en manque de production également. Ensuite, les prairies brûlées seront ressemées ou laissées pour repousser naturellement d'elles-mêmes. Mais cela pose la question en fait d'assurance et d'obligation vis-à-vis de la PAC et des aides touchées, hein, puisque normalement le sol ne doit pas rester sans prairie ni sans haies. Donc une bataille s'engage pour certains agriculteurs. Il y a aussi la problématique toute bête, mais bien réelle en fait, des clôtures détruites, hein, les barbelés. Donc cela coûte cher et les éleveurs souhaitent que l'assurance le prenne en charge.
Ouais, c'est vrai qu'on n'y pense pas, Ludo, tu as raison. Ces événements nous auront aussi donné une leçon. Une belle leçon quand même, celle de la solidarité.
Et oui, et souvent les agriculteurs ne s'entendent pas forcément toujours entre eux, mais là, ils ont fait une preuve de solidarité pour éteindre ces feux en intervenant avec notamment les déchaumeurs et les tonalisiers hein, remplis d'eau pour éteindre les feux. Ils sont intervenus très rapidement, souvent avant les pompiers et en nombre. Donc les pompiers en sont extrêmement reconnaissants hein, et tout le monde devrait en avoir conscience également. Donc sans cette solidarité et leur aide, les pompiers n'auraient pas pu éteindre ces feux aussi rapidement.
Nos rivières ont subi la sécheresse aussi, même si le Marais Poitevin a pu assurer sa saison touristique, tu le disais tout à l'heure.
Oui, le Marais Poitevin, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Globalement, on a 2500 km de référencés comme cours d'eau en Deux-Sèvres. Et aujourd'hui, 1000 km sont devenus ce qu'on appelle des ASEC, en fait, où il n'y a plus d'eau qui circule. Donc la faune et la flore hein, payent un lourd tribut de tout ça, hein, sans eau, pas de vie. Ce sont des petites choses que l'on ne voit pas, mais qui bousculent les chaînes alimentaires hein, et qui pourraient favoriser les espèces opportunistes et prédatrices. Hein. Donc la biodiversité n'en sort clairement pas gagnante.
Effectivement, Ludo, de gros chamboulements suite à cet été. Où en est-on alors pour cette rentrée ?
Alors dans les exploitations, hein, et ce que vous voyez sur le bord des routes, en plus de la poussière que vous pouvez voir quand on travaille, les ensilages de maïs hein, sont quasiment terminés, avec un mois d'avance. Et la récolte a été très mitigée, hein, pour ne pas dire pas terrible du tout, en qualité comme en quantité. Les animaux hein, que vous pouvez voir sont affouragés, faute de prairies disponibles. Les éleveurs piochent dans les stocks d'hiver.
Déjà,
ce qui pose forcément beaucoup d'inquiétudes. Les maraîchers, horticulteurs, les apiculteurs ont souffert également de cette sécheresse par le manque d'eau. Les semis de prairies seront faits en espérant que l'eau arrive. Les semis de colza, hein, qui devaient avoir lieu à partir du 15 août, sont souvent annulés pour l'instant. Alors même si certains se sont risqués après les pluies, entre le 15 et 20 août, on a eu une petite période pluvieuse de 30-40 mm.
Oui.
La production de lait, en fait, elle s'atténue avec les coups de chaud hein, qui font souffrir les animaux et réduisent la qualité des fourrages distribués. Bref, l'agriculture est secouée et la question se pose sur le modèle agricole aujourd'hui.
Et un nouveau mot, Ludo, est apparu cet été avec ses chamboulements, l'éco-anxiété.
Ouais.
Le monde rural et agricole, est-ce qu'il se l'approprie ce mot?
Alors oui,
aussi
alors, éco pour écologie, hein, ouais. Chamboulement climatique et l'anxiété, donc la peur. Donc oui, ce monde agricole se l'approprie, mais sans forcément mettre de mots dessus. Hein.
Ouais.
Mais il y a les craintes, les questions qui se posent sur le changement climatique et notre capacité à nous adapter. Donc la terre, hein, c'est clairement le support de la vie rurale. Donc ce qui est encourageant, c'est que les réactions, en fait, arrivent également. Même si bon nombre de chefs d'exploitation n'ont pas attendu pour s'adapter, et heureusement.
Ouais. Tu nous reparleras sûrement des solutions à cette année, Ludo, et du comment le monde agricole évolue. Tu le dis souvent,
toujours
le monde agricole, c'est toujours ça.
Ouais.
On va souhaiter une bonne rentrée à tout le monde, aux grands comme aux petits.
Et voilà, et pour les petits, hein, on souhaite une bonne rentrée. Un petit clin d'œil au petit Alexis qu'on avait déjà parlé ici,
Mais
qui est agriculteur en herbe hein, et qui fait sa grande rentrée au collège. Donc même pas peur, Alexis, vas-y.
Allez, on t'embrasse, Alexis, ça va bien se passer.
Allez, ciao.
À bientôt, Ludo.